Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Michel Bussy pour son roman Au soleil redouté, une enquête policière dans les îles Marquises. Et puis dans Les Indispensables, une exposition consacrée au créateur des fameux souliers à semelle rouge, Christian Louboutin. Et puis musique, on va vous emmener à la découverte des différents groupes de la scène cannaise. Cannaise, pas de la ville de Cannes, mais de la ville de Caen. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour.
C'est avec vous le journal de la culture. Pauline Lefebvre en parlait dans son journal.
Marguerite.
Harvey Weinstein a été reconnu coupable hier de viol et d'agression sexuelle au terme de son procès. Les révélations sur le producteur sont à l'origine du mouvement MeToo. Et en France, l'actrice Adèle Haenel prend à nouveau la parole sur le sujet.
Elle ne s'était plus exprimée depuis son témoignage à Mediapart en novembre. Elle y affirmait avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuel de la part d'un réalisateur lorsqu'elle était adolescente. Cette fois, c'est au prestigieux New York Times qu'elle se confie. Elle y raconte les nombreux témoignages reçus depuis sa prise de parole, des lettres, des mails de personnes touchées par son récit, majoritairement des femmes, victimes ou non. Elle regrette le retard de la France dans ce mouvement MeToo. Elle a déclaré « La France est l'un des pays où le mouvement a été le plus suivi sur les médias sociaux, mais d'un point de vue politique et médiatique, la France a complètement raté le coche. » Et à quelques jours des Césars, elle s'exprime évidemment sur Roman Polanski, nommé 12 fois pour son film « J'accuse ». Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire « ça n'est pas si grave de violer des femmes ». Une interview que vous pouvez retrouver en français sur le site du New York Times.
Un personnage lesbien pour la première fois dans un film d'animation Disney.
Oui, ce sera dans la prochaine production des studios Pixar, En avant. La sortie est prévue la semaine prochaine, le 4 mars. Le film suit les aventures de deux frères elfes qui tentent de ressusciter leur père disparu grâce à d'anciennes formes de magie. Et ils croisent sur leur route Spectre, une policière, sorte de licorne cyclope, qui est donc lesbienne. Pas de baiser à l'écran, hein, non, le personnage fera simplement allusion à sa petite amie qu'on ne verra pas, c'est-à-dire qu'elle confiera à un autre personnage que la fille de sa petite amie lui fait s'arracher les cheveux. C'est subtil. Le réalisateur Dan Scallon a expliqué avoir voulu représenter le monde moderne dans cet univers fantastique et le producteur du film, lui, Corey Ray, envisage de faire un spin-off, c'est-à-dire un autre film, mais centré sur ce personnage de Spectre.
Kinvi, qui est obligé d'annuler sa tournée prévue en mars et en avril, faute de billets vendus.
Il a annoncé la nouvelle dans une vidéo sur son compte Instagram hier.
Coucou les amis, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer que le Therapy Tour n'aura malheureusement pas lieu. Vous n'avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. C'est peut-être parce que au bout de sa cinquième tournée en 6 ans à guichet fermé, qu'au final, c'était peut-être la tournée trop, c'était peut-être trop ambitieux.
Bon, il explique qu'il a quand même pu garder une date de la tournée le 3 avril à Rouen. Il faut dire que son dernier album a eu moins de succès que les précédents. 40 000 ventes au lieu de 100 000 environ pour les précédents. Et à la fin de sa vidéo, il prévient qu'il se coupe des réseaux sociaux pour éviter de lire la déception des fans, car sa déception à lui est déjà immense. Mais il ne renonce pas pour autant. Sous son post Instagram, il écrit « Je reviendrai plus fort de cet échec, plus motivé, avec un projet qui vous plaira plus ».
Voilà, Céline D'Acosta me dit qu'on dit Kinvé, je suis désolé, mais je disais Pizza Hut, alors ça compense. Une Joconde en Rubik's Cube adjugée 480 200 euros aux enchères.
Ça fait donc 4
fois.
Ouais, je sais que ça allait vous plaire. 4 fois plus que le prix estimé. C'est un record pour Invader, l'artiste derrière cette œuvre de street art. Vous savez, il a habillé les murs des villes avec ses petits personnages colorés en mosaïque. Il a aussi réalisé une série de grands tableaux réinventés, comme Le Déjeuner sur l'herbe ou L'Origine du Monde. Et le tout premier réalisé, c'était justement ce tableau vendu aux enchères, Rubik Mona Lisa. Il date de 2005 et comporte 300 Rubik's Cube. Lors de cette même vente d'art urbain, un autre artiste a battu son record de vente. Le photographe JR, avec son œuvre 28 mm, Women or Heroes, adjugé 101 400 euros.
Allez, bim, mais comme je dis toujours, c'est les 400 les plus durs à sortir.
C'est ça.
Les derniers. En Arabie Saoudite, les autorités réclament l'arrestation d'une rappeuse.
Asai Elsley est accusée d'offenser les coutumes et traditions des habitants de la Mecque à cause d'une chanson, Bint Makka, la fille de la Mecque. Dans Dans son clip, elle rappe dans un café, voilée, avec des lunettes de soleil, entourée de jeunes filles qui dansent. Elle dit sa fierté de faire partie des femmes de la Mecque. Et la mise en scène n'était pas au goût du gouverneur de la ville. Il a publié un ordre d'arrestation sur Twitter. Et son compte YouTube à cette rappeuse, Asaïa Elsley, a été lui suspendu.
Quelque chose me dit qu'on va continuer à vous donner des nouvelles. Vous êtes en basket ?
En talons, mais pas de semelle rouge.
Voilà, parce que Louise revient pour nous parler de l'expo Louboutin.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Michel Bussy.
Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Vous êtes romancier, vous êtes le deuxième auteur français le plus lu en France après Guillaume Musso, mais vous êtes passé devant Marc Lévy. 946 000 exemplaires vendus l'an passé, ça paraît complètement dingue. Des romans traduits dans 35 langues, je vais citer N'oubliez jamais, Gravé dans le sable, Maman a tort qui est devenu un film sur France 2, Un avion sans aile qui est devenu une série sur M6, et Le temps est assassin qui est devenu une série de 8 épisodes sur TF1. Et là, vous publiez un nouveau roman, ça s'appelle Au soleil redouté, c'est aux presses de la Cité. Au soleil redouté, d'où vient ce titre? C'est Jacques Brel qui nous répond.
Les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été.
C'est la chanson Les Marquises.
Et ça fait peur comme
de
ça.
De Brel. Ouais, ça fait très peur comme ça.
Redouter.
Pourquoi Les Marquises d'abord?
Alors j'avais besoin d'un huis clos dans une île, ouais. et si possible une île très très lointaine. Donc j'ai pas été chercher loin, ou au contraire chercher très loin, puisque les Marquises c'est l'archipel le plus isolé du monde. On est déjà à 4 heures de Tahiti et à plus de 6000 km je crois du premier continent. Ouais. Donc un archipel très isolé. Les Marquises, quand je me suis un petit peu documenté dessus, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des tas de choses intéressantes. Alors il y avait évidemment Brel et Gauguin qui sont enterrés là-bas, à Ivaoa, qui est l'une des îles des Marquises, mais il y avait aussi une culture extraordinaire. C'est aux Marquises qu'on a inventé le tatouage, plus ou moins. C'est aux Marquises que le mot tabou a été inventé. Les fameux tikis, ces espèces de sculptures de bois ou de pierre un peu effrayantes, c'est aux Marquises qu'on les trouve le plus fréquemment. Sans oublier le mana, cette espèce d'esprit. Et puis les Marquises, c'est aussi une société très violente, avec le haka, peut-être plus violent encore qu'en Nouvelle...
Le haka, c'est-à-dire la danse d'avant les matchs des All Blacks, voilà, l'équipe de Nouvelle-Zélande.
Alors, le haka marquisien, c'est un haka plus violent.
Ah, disons, ça promet.
Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Vous êtes allé également sur place.
Oui, alors forcément, c'était très difficile. Les Marquises, c'est très difficile à définir parce qu'on a une image un petit peu de paradis.
Pour moi, c'est un paradis. Il fait jamais froid, il fait jamais trop chaud.
Et il y a ce côté paradisiaque, mais d'un autre côté, il n'y a pas de lagon, comme ailleurs à Bora Bora et autres. Donc, c'est quelque chose qui est très sauvage et c'est quelque chose qui est même limite effrayant parce qu'il y a très peu de routes. Et donc, c'est un espace, c'est une jungle en fait, hein, où seulement les chasseurs là-bas y vont. Et puis, ils sont très peu nombreux. Hein. Ils sont 2000 sur Ivaoa, donc c'est très peu nombreux.
Alors, le décor est posé. C'est quoi l'intrigue? Et je choisis à dessein ce mot, car même l'intrigue est intrigante.
Oui, alors l'idée, c'est un atelier d'écriture organisé autour d'un écrivain célèbre. Et 5 lectrices vont gagner ce concours et donc vont se retrouver un peu comme on irait dans un monastère, dans cette île très isolée.
C'est leur cadeau.
C'est leur cadeau, payé par l'éditeur, pour participer à cet atelier d'écriture au bout du monde. Et va y avoir une première disparition, un premier meurtre, et puis les choses vont s'enchaîner. Alors évidemment, il y a les lectrices, il y a l'écrivain, il y a les pensionnaires de cette pension qui s'appelle Au soleil redouté. Et puis, il y a évidemment quelques marquisiens autour.
Alors, elles sont là, elles sont 5 et elles sont avec le grand écrivain qui s'appelle PIF, P-Y-F, c'est évidemment un acronyme. Il leur demande comment elles feraient pour bien démarrer un roman. Elles disent ben, par un meurtre. Il dit non, il y a beaucoup mieux qu'un meurtre, c'est une disparition. Pourquoi? Parce que si la personne disparaît, on ne sait pas si elle est morte et vivante. Et quand elle a disparu, on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est un enlèvement. Je ne peux pas tout raconter, mais si, je peux le dire quand même. Du coup, le gars disparaît.
Tout à fait, ça c'est le tout début. Et évidemment,
Oui, je vais pas raconter le milieu.
Et donc, on est dans cet esprit des murder party, c'est-à-dire qu'évidemment, les lectrices se demandent si c'est un coup monté, c'est-à-dire si c'est l'écrivain qui lui-même a organisé sa propre disparition pour les inspirer, ou s'il a vraiment disparu, ou s'il est vraiment mort. Et évidemment, le roman commence sur ce faux semblant qui est-ce qu'elles sont en train de participer à vraiment un atelier d'écriture et tout est organisé, ou est-ce que réellement il se passe de vrais crimes?
Alors, au bout de la page 75, je me dis quand même, ça ressemble à Dyptinègre livre d'Agatha Christie. Et là, il y a Maïma, une des personnages, elle dit « Depuis le début, j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé dans une sorte de roman policier, un peu comme dans Dix petits nègres. Des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas sont convoqués pour une raison bidon sur une île. Tous peuvent être coupables. Il faut trouver le tueur avant qu'il ne se fasse assassiner les uns après les autres. » Et donc, vous coupez l'herbe sous le pied de toutes les critiques, mais après, on se dit « Mais à quel jeu il joue ce Michel Bussy ?» C'est vous le
challenge, c'est évidemment ce principe qu'a inventé Agatha Christie dans Des petits nègres, qui est on met un certain nombre de personnages, certains vont mourir, tous peuvent être coupables.
Ouais.
C'est assez génial parce qu'évidemment c'est très flippant, y compris pour la personne de se dire je suis peut-être le coupable, je vais peut-être mourir, je vais peut-être être le survivant. Et le challenge pour un écrivain policier, c'est évidemment de trouver une résolution qui soit différente de celle d'Agatha Christie et qui soit introuvable. Ouais. Parce que la grande difficulté, c'est de se dire il y a un nombre de coupables limité, mais il faut que le lecteur, à la fin du livre, se dise c'est le seul auquel je n'avais pas pensé.
Exactement, ils sont quand même 2000 sur l'île. Et sauf qu'à la différence d'Agatha Christie, il y a plusieurs voix qui parlent.
Oui, oui,
vous avez
oui.
fait ça aussi.
Moi, j'aime beaucoup les récits un peu enchâssés à la première personne. Et donc, comme ce sont des lectrices, évidemment, il y a ce côté, elles écrivent un roman. Et puis, il y a le côté Maïma, qui est une petite marquisienne, ouais. qui raconte sa propre histoire.
Vous restez avec nous, Michel Bussy. On n'a pas encore parlé de sexe, on n'a pas encore parlé de plein de choses, on n'a pas encore parlé de vous. On a trop de questions.
Un programme riche donc à suivre dans Culture Média sur Europe 1. Tout de suite avec notre invité, Michel Debussy.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Michel Bussy qui est notre invité, Philippe, ce matin pour son nouveau roman Au Soleil Redouté aux éditions Presse de la Cité. Et très bonne nouvelle, il est en tête des ventes,
ouais,
Philippe.
C'est une bonne nouvelle et ce n'est pas une surprise que vous êtes habitué à cette première place, Michel Bussy. Le personnage de Pif, Pierre-Yves François, un romancier un peu gourou avec 5 lectrices autour de lui en pamoison, c'était une manière de parler de vous ?
Non, justement, c'était l'inverse. Je voulais parler des lectrices, je voulais parler de la lecture, ouais. et moins des écrivains. Il y a quand même beaucoup de romans qui ont pour héros des écrivains.
Bah, c'est la facilité, écrivain, bien sûr, c'est la mise en abîme la plus fastoche.
Mon écrivain, je me moque un peu de lui, je le rends pas très sympathique, je le rends pas très beau non plus.
Ah, c'est pour ça que vous l'appelez Pif.
Voilà, et puis il disparaît assez rapidement, donc sans trop en dire. Donc finalement, c'est plus un anti-héros. Par contre, ce qu'il écrit et le poids de ce qu'il écrit sur les lectrices, ça c'est très important.
Mais les lectrices en pamoison, au début elles sont en pamoison, après ça change, mais c'est votre vie.
Non, pas forcément, mais ce qui est amusant, c'est le décalage entre ce qu'on est quand on est écrivain, ouais. mon héros Pif, là, et puis ce qu'on écrit, parce qu'on peut écrire des choses très belles tout en étant un abruti parfait, ou avoir une vie absolument banale. Donc c'est ça qui est assez fascinant.
Vous êtes en train de parler de vous, là ?
Peut-être, ouais.
C'est étrange de choisir cet exemple.
Non, mais on parle beaucoup en ce moment de la différence entre le personnage, enfin avec l'affaire Polanski, etc., quoi, entre l'œuvre et l'homme. Et c'est vrai que, bah, évidemment, il y a
toujours dans ce côté. Oui, mais dans le cas de l'affaire Maznev, au contraire, c'est même justement ça qui choque, c'était que Maznev écrivait ce qu'il faisait et que tout le milieu littéraire savait, et c'est une part du scandale, l'affaire Maznev, c'est que justement le type n'a pas triché, il s'est pas caché.
Non, tout à fait, je suis bien d'accord, mais dans nombre de cas, si on prenait les plus grands écrivains, les plus grands génies qui n'ont absolument pas d'affaires derrière eux, peut-être que c'est des gens absolument banaux, et d'ailleurs souvent je suis même persuadé que si on est écrivain, c'est parce que dans la vraie vie on n'est pas forcément très à l'aise, et donc on se cache derrière les mots pour dire des choses très intéressantes. Mais on est très banal en fait, sans doute, dans la vraie vie sociale.
C'est vrai que sinon on n'a tué personne.
Et oui.
Il y a une scène érotique, page 92. Est-ce que c'est calculé ?
Ah non, pas du tout.
Vous l'avez fait parce que c'était le moment ? Je veux dire le sens de ma question. C'est un jour, Nicolas Rey, qui est un écrivain que je connais, m'a raconté qu'il est passé d'une petite maison d'édition à la maison Grasset. Auparavant, il était au Diable Vauvert. Et on lui a dit, ta scène érotique, page 48, c'est pas possible. Il a dit, ah bon, pourquoi ? Elle est bien, il dit oui, elle est bien ta scène, mais on ne met pas une scène érotique avant la page 85, car les études prouvent que les lectrices, la plupart, ne vont pas jusqu'à la page 85, et donc sinon ça peut les rebuter. Est-ce que c'était calculé qu'elle soit page 92 ?
Ah non, pas du tout, c'est lié à l'histoire. D'ailleurs, dans mon roman précédent qui était J'ai dû rêver trop fort, il y avait beaucoup plus de scènes, on va dire, sensuelles,
ouais.
et d'ailleurs assez tôt dans le roman.
Bah déjà, c'est dans le titre.
Voilà, donc non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment lié à l'histoire
et vous l'avez mis,
à l'instant. Voilà,
pas de marketing. Vous n'êtes pas dit, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire.
Ah, mais je suis sûr que si on fait du marketing, ça ne marche pas du tout. Enfin, il n'y a rien de moins sensuel que du marketing quand même.
Ah, on est d'accord.
Il faut qu'on soit surpris sur une scène sensuelle.
La règle première du marketing, et c'est le paradoxe, surtout pas de marketing. À la fin du roman, comme dans Le Temps est assassin, je ne vais pas le dévoiler, mais je vais quand même dire qu'il y a le fameux twist à la Bussy. D'abord, pour qui ne sait pas ça, c'est quoi un twist ?
Ben, un twist, ce n'est pas seulement un rebondissement, parce que toutes les histoires ont des rebondissements. Le twist, c'est vraiment un retournement. C'est-à-dire que quand vous avez la révélation, vous vous dites « Mon Dieu, tout ce que j'avais lu avant, je m'étais trompé. Enfin, c'était devant mes yeux et je n'ai rien vu. » Donc, c'est vraiment un retournement, un peu comme, comme une crêpe. Quoi. On retourne le lecteur comme une crêpe en se disant « Waouh, là, j'ai rien vu venir. »
Et à la Bussy, parce que d'abord, cette expression a été utilisée par les journalistes qui critiquaient vos livres, ensuite par l'éditeur, et je vous ai même lu en train de parler vous-même à la troisième personne de vous en disant « il y a un twist à la Bussy ».
Oui, bah, je me suis fait un peu avoir, c'est-à-dire que notamment, c'est un roman qui s'appelait « Nymphéa noire » qui a un twist un peu spectaculaire à la fin, et maintenant, c'est que dès que je produis un roman, évidemment, les gens attendent le twist, et si à la fin, il n'y a pas de twist, on se dit « ah ouais, bon, le dernier Bussy, il est un peu… »
Mais alors, est-ce que vous-même, vous ne vous lancez pas dans une écriture si vous ne savez pas que vous avez ce twist ?
Ah bah bien sûr, maintenant, je suis obligé d'avoir une fin extrêmement spectaculaire, surprenante et inattendue avant de commencer à écrire mon roman. Sinon, je suis sûr que je suis foutu et que je vais décevoir mes lecteurs.
Il y a une nouveauté, Sous le soleil redouté sort simultanément en version audio chez Lizzie. C'est un livre audio. On va entendre un tout petit bout. C'est lu par Emmanuel Lemire. Extrait.
Les poissons dorment. Ils ne sont pas morts ou engourdis par une mer trop chaude. Non. Ils dorment vraiment. Elle se rapproche encore des rochers noirs déchiquetés au bout de la baie des traîtres pour mieux les regarder flotter dans les piscines naturelles. Dans le champ qui surplombe la plage, deux chevaux bruns broutent des feuilles de frangipanier. Un instant, elle envie leur liberté paresseuse avant de repérer la discrète corde qui les relie à deux piquets. Retour aux piscines. Une cinquantaine de poissons, pris au piège entre les rochers noirs, font la planche, immobiles, les yeux ouverts, se laissant bercer par les rouleaux de l'océan Pacifique. Des mérous, des perroquets, des chirurgiens, tassés et multicolores. Une piscine, un mercredi de canicule. Et un seul maître nageur pour tous les surveiller.
C'est vous qui avez choisi le comédien ?
Non, pas du tout. Non.
Parce que Nicolas Souvent, notre réalisateur, a dû resserrer. Il y avait tellement d'espace entre chaque mot. Il m'a dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Pourquoi ce choix ? C'est pas vous n'êtes pas maître de cette chose-là.
Non, là, pour le coup, je connais pas les comédiens. Après, j'apprécie beaucoup d'écouter mon texte lu. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui écoutent des audiolivres, en fait, notamment dans les bouchons.
Bien sûr.
Mais aussi chez eux. Il n'y a pas seulement les gens qui sont malvoyants ou trop âgés. Donc, c'est génial. Et donc, on fait le lancement ce soir à Lille de l'audiolivre pour Lizzie.
Ah, vous serez à Lille ? Vous serez où ?
Ce soir. Bah, à Lille. Alors, je sais plus exactement où c'est. Mais,
d'accord. On sent le gars réunion, qui est vraiment. On sent l'auteur qui a beaucoup, beaucoup de lecteurs, puisqu'il sait même pas où il va. Il y a qui ne savent pas où ils habitent. Michel Bussy ne sait pas où il va. On vous le dira juste après ça.
Allez, Michel Bussy qui est notre invité. Avec lui, on découvrira nos indispensables du jour, l'exposition Louboutin et musique avec les groupes de la scène cannaise. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, on va parler de l'exposition Christian Louboutin avec Louise Bernard. On va parler musique également, les groupes de la scène cannaise, hein, précisément avec Angèle Châtelier. Tout ça avec notre invité Michel Bussy qui publie Au soleil redouté aux éditions Presse de la Cité.
On parlait du marketing tout à l'heure et du rebut que ça suscitait chez vous. Vous faites quand même un aveu que peu d'écrivains osent faire. Vous dites, quand j'écris mes romans, je pense toujours au lecteur.
Oui, mais je crois que tous les écrivains pensent au lecteur. Enfin, quand on écrit quelque chose qui est censé être drôle, on ne se fait pas rire soi-même. On espère que ça fera rire celui qui va le lire. Mais c'est comme tout écrivain. Si on écrit une lettre d'amour, on ne l'écrit pas pour soi, on l'écrit pour celle qu'on espère séduire. Donc, dès qu'on écrit, on écrit pour l'autre.
Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent pour leur nombril et beaucoup qui écrivent pour la postérité.
C'est ce qu'ils disent.
Vous croyez ça ? Angèle Châtelier, je me tourne vers vous. Hier soir, Angèle, comme souvent, vous étiez à un concert, celui du groupe Samba de la Muerte à la Maroquinerie. Ils ne sont pas espagnols, mais ils viennent des alentours de Caen.
Alors oui, on a souvent parlé de la scène musicale rennaise emmenée par Étienne Dao, Marquis de Sade, ou celle de Bordeaux que vous semblez bien connaître, Philippe, on en avait parlé.
Oui, j'aimais bien tous les groupes qui commençaient par rester, les Standards, Strychnine, des gens comme ça.
Et il y a aussi, sachez-le, la scène de Caen, Caen-la-Mer. Pour parler de l'agglomération, les Normands se reconnaîtront.
Mais attendez, j'imagine, c'est pas un hasard que vous nous parliez de Caen.
Bah non, c'est ma terre, j'avoue. Alors cette scène, je la connais bien, déjà parce qu'on a un référent, un certain Aurel San.
100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché.
À Caen, comme dans beaucoup d'autres scènes, il y a des musiciens qui butinent de groupe en groupe. Adrien Le Prêtre, avant de sortir son projet Samba de la Muerte, il était d'abord musicien dans le groupe Concrete Knives.
Little boy, you have to go. Shine on, you know it's time. You need your home, hurry up, take.
Mais ça, je ne l'ai pas entendu dans une pub.
Oui, dans une pub d'une marque d'électroménager, effectivement. D'accord. Alors, il s'est ensuite donc essayé en solo avec Samba de la Muerte et publié il y a quelques mois son deuxième album. Je vous propose de fermer les yeux, sauf si vous êtes en voiture, et d'écouter un extrait. Dans son album, on entend aussi bien des sonorités caribéennes que du hip-hop. Ou encore des basses et des sonorités rock.
Vous m'avez dit, Angèle, que dans la scène cannaise, il y avait également de l'électro.
Oui, on a deux artistes d'électro qui sont sortis des frontières normandes avec leur musique, à commencer par Fakir. Il a collaboré avec Jane ou Ibrahim Mahalouf. Le beatmaker, comme on l'appelle, cumule 11 millions de vues sur son titre « La Lune Rousse ». Nous avons aussi Superpose, également producteur du rappeur L'Homme Pâle notamment, wow. Et sa musique est tout aussi planante. Enfin, quand ça a été aussi de la pop avec le groupe Grandville. J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi. Mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Grandville. Tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour... Le groupe n'existe plus aujourd'hui, bien que ses anciens musiciens gravitent encore autour d'autres projets musicaux. Mais c'est vrai, Philippe, comme je vous le disais au départ, le canet qui a eu le plus de succès, c'est bien Orelsan. Alors je me souviens d'ailleurs de ses débuts.
Oui.
J'étais au lycée, il traînait au skatepark pour faire le clip de son titre « Le changement ». J'avais vu arriver un homme déguisé en lapin, personnage de son clip, c'était complètement improbable. Et dans son dernier album, Orelsan fait un clin d'œil à sa ville à Caen, dans son titre « Dans ma ville, on traîne ». Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout, pour nous rappeler qu'on y passera tous, et tu seras de retour en ville. Où les bourges font les courses et les punks mendient. Où il y a des clochards dont tout le monde connaît les noms. J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à coups de tesson devant l'épicerie Zeg est toujours ouverte. Près du château, c'est doux et c'est légende urbaine. J'ai fait des mariages, des enterrements dans les mosquées, les églises et les temples. Sous un crachin normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement. Ma ville au sang clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé.
Elle est extraordinaire cette scène cannaise, j'ignorais complètement.
Et, oui, voilà.
Et mention spéciale de mon point de vue pour la scène électro, vraiment formidable. Et puis alors, Angèle, je l'ai dit en préambule, vous allez voir beaucoup de concerts et vous avez aussi des souvenirs avec Madonna. Vous étiez samedi au Grand Rex pour le concert qui a démarré avec 3h30 de retard.
Oui.
Les gazettes ont glosé sur le retard, mais à part ce retard, c'était comment ?
C'était extraordinaire. J'ai vraiment pas de mots. On oublie finalement ces 3h30 de retard. Dès qu'elle arrive sur scène, on est submergé par son univers. Il y a des messages politiques partout. Finalement, c'est même pas un concert, c'est une performance, un mélange entre une comédie musicale, une pièce de théâtre et Madonna qui est là et qui s'adresse à son public qui parfois tend le micro, qui parfois vient dans le public. C'est absolument incroyable.
Il y a un gros groupe, ils sont combien ?
Ils sont, je dirais, une dizaine de musiciens danseurs,
ouais,
avec elle au milieu et ils se partagent toute la scène.
Et la critique qu'on fait parfois à Madonna, c'est qu'elle chante pas toujours juste.
Alors là, elle s'est aidée effectivement de l'autotune, vous savez,
ouais,
cette espèce de logiciel un peu spécial qui permet de rendre la voix juste. Au final, c'est un peu le procédé qu'elle a eu dans son album aussi et on l'oublie. Mais par contre, elle a 61 ans, elle danse encore comme si elle en avait 20.
Et elle a fait les tubes ?
Et elle a fait 2 tubes.
Like a Virgin ?
Non. Non, mais peut-être qu'elle le fera sur toute sa résidence
à 61
au Grand Rex.
Non, ça serait génial.
Oui.
Elle a fait quoi comme tube ?
Elle a fait Frozen notamment et elle a fait Like a Prayer, c'était incroyable.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Michel Bussy qui est notre invité, Philippe. Il sort au Soleil Redouté. C'est son dernier roman aux éditions Presse de la Cité. On va y revenir dans un instant. Avant, comme premier, on va parler de l'exposition Christian Louboutin au Palais de la Porte Dorée avec Louise Bernard.
Bonjour Louise.
Rebonjour.
Oui, Christian Louboutin, créateur des fameuses chaussures à la semelle rouge, est mis à l'honneur d'une expo. C'est au Palais de la Porte Dorée à Paris. L'expo commence demain, mais vous y êtes allé en avant-première pour nous.
Oui, mais comment écrire une chronique sur une exposition qui laisse sans voix? Comment écrire une chronique quand je ne trouve pas les mots pour décrire la beauté de ce que j'ai vu hier?
Non, vraiment?
D'habitude, ouais, vraiment. D'habitude, les œuvres d'art composent l'exposition. Cette fois-ci, c'est l'exposition en elle-même qui est une œuvre d'art. C'est assez troublant.
Alors, qui a créé cette expo? Est-ce que c'est Louboutin lui-même?
Oui, oui, ça fait 2 ans qu'il travaille dessus avec Olivier Gabet, le directeur du musée des arts décoratifs. Résultat, des salles plus belles les unes que les autres. Ils ont créé des décors incroyables. Un théâtre, un salon de grand-mère anglaise, des vitraux conçus, hein, rien que pour l'occasion. Chaque détail a été pensé. Les couleurs, la lumière, l'écriture, les jeux de miroirs, c'est d'une créativité folle à l'image de l'univers de Christian Louboutin. Écoutez Olivier Gabet, le commissaire de l'exposition.
Je pense que c'est tout d'un coup une plongée dans un univers. C'est pas une rétrospective classique au sens vous lisez la biographie, les premières années, les machins, les trucs. C'est vraiment un voyage presque dans la tête de Christian Louboutin. C'est pas qu'une exposition de souliers, c'est autre chose, c'est se pencher sur un phénomène culturel et sociétal qui a marqué et qui continuera à marquer les années qui viennent.
Vous avez entendu, hein, ça n'est pas qu'une exposition de souliers, mais vous allez quand même en voir beaucoup, découvrir ces 30 ans de création. Vous allez arrêter de réduire les Louboutins à des semelles rouges. Et puis ça permet aussi de comprendre comment elles sont fabriquées de A à Z. Ça rend l'œuvre de Christian Louboutin plus accessible, du moins pour les yeux. C'était ça son objectif, c'est ce qu'il m'a confié hier.
Beaucoup de gens s'intéressent à la mode, beaucoup de gens s'intéressent aux souliers, à des univers de mode, etc., sans avoir accès. Ce qui me tenait à cœur, c'est de faire une exposition populaire de qualité. Et ça, c'est important parce que j'ai conscience que, enfin, je sais que l'univers du monde de la mode, ça représente à peu près 2000 personnes qui ont accès à des showrooms, aux défilés, à voir le monde de la mode. Le monde de la mode ne s'arrête pas aux professionnels de la mode. Et là, pour moi, c'était la possibilité de montrer mon travail dans un endroit, finalement, dans un quartier populaire, dans un endroit populaire.
Oui, c'est parce qu'il est ce musée dans un quartier populaire, c'est au bout du 12e qu'il a choisi le Palais de la Porte Dorée.
Oui, alors pas que, ce lieu a beaucoup de sens pour lui. Et là, je vais vous raconter une belle histoire. Le créateur est né dans le quartier de Paris. Et enfant, le petit Christian passait beaucoup de temps dans ce musée. Il y admirait les collections d'art océanien et africain, sa manière à lui de voyager et de s'ouvrir à d'autres cultures. Et puis surtout, il a été marqué par un panneau lorsqu'il avait 10 ans. Un panneau signalétique à l'entrée du musée. Une chaussure à talons noirs barrée d'un trait rouge pour signifier l'interdiction d'en porter, hein, pour ne pas abîmer le sol.
Et pourquoi ça l'a marqué?
En fait, déjà, il a découvert que ce type de chaussure existait et il a gardé cette image, ce pictogramme en tête. Il l'a dessiné inlassablement sur ses tables d'école en changeant juste de couleur, parfois, hein, jusqu'à ses 16 ans, où il a compris qu'il pouvait en faire un métier. Et c'est là qu'il a commencé à dessiner différemment, en 3D, et il s'est enfin affranchi de cette image. Et c'est d'ailleurs ce panneau signalétique qui ouvre l'exposition en clin d'œil au Christian enfant.
J'avais pas des parents qui dessinaient des souliers ou quoi que ce soit. Ça dit une chose, c'est que si on rêve d'une chose et qu'on est travailleur, dans le fond, eh ben, les choses peuvent arriver. Je suis content d'avoir été fidèle à l'enfant que j'étais, qui aimait dessiner des souliers, et d'avoir continué à pouvoir laisser cet enfant vivre, en fait. Quand je regarde, je vois que tout ce que j'ai eu dans la tête et que j'avais envie de faire, j'ai réussi à l'exécuter, et ça, c'est formidable.
Ouais, c'est formidable, comme cette exposition donc, sur le travail de Christian Louboutin, l'exhibitionniste, ça s'appelle. Elle commence demain et elle dure jusqu'au 26 juillet au Palais de la Porte Dorée à Paris, dans le 12e arrondissement.
Merci beaucoup Louise Bernard. Il vous a fait un prix, Christian Louboutin, pour une paire
non,
de souliers.
Dommage.
Non. Personne en Louboutin sur votre île, Michel Bussy. En tout cas pas aux Marquises.
Non, mais en tout cas c'est une très très belle histoire, cette idée que l'enfant qu'on est, qui rêve, finalement revient des années plus tard en étant devenu célèbre. Ça c'est ce dont on rêve tous. Enfin, moi, ça peut arriver aussi.
Dans quelle mesure ça vous est arrivé? Qu'est-ce qu'on vous a interdit de faire quand vous étiez petit et qui a déterminé votre vie maintenant?
C'est qu'il y a une petite voix qui vous dit, voilà, moi c'était les livres et je lisais des livres, je me disais peut-être qu'un jour je serais écrivain. Enfin, c'était une espèce de rêve. Quand le rêve s'accomplit, il y a comme ça quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est très émouvant ce qui est arrivé.
Et alors Louboutin retournait dans ce musée où il allait quand il était petit. Et vous, Michel Bussy, vous habitez toujours dans votre ville de Darnétal, c'est ça, près de Rouen?
Oui,
9000 habitants.
Toujours au même endroit, donc voilà, à côté de Rouen. Et
mais la même maison?
Non, c'est pas. Enfin, j'ai déménagé de 20 km à peu près entre l'endroit où je suis né et l'endroit où j'habite.
Non, mais vous êtes un petit peu agrandi entre vos débuts de romancier et maintenant ou pas du tout? Vous avez la même maison?
Oui, non, j'ai la même maison, j'ai gardé les mêmes amis. Enfin, voilà, mais c'est une façon de. Comme on connaît pas vraiment la potion magique qui permet de trouver cet équilibre, il faut rien changer.
Vous voulez pas casser une martingale?
Exactement.
Mais alors, pardon de poser cette question, mais on sait combien ça rapporte un livre. Vous faites quoi de vos droits d'auteur alors?
Ah, bah, je sais pas, je voyage déjà. Je vais au Marquise, par exemple.
Il s'achète des Louboutins.
J'ai connu une personne comme vous, enfin, je l'ai pas connue, mais on me l'a raconté, qui n'avait jamais voulu déménager après un succès colossal. C'était Philippe Starck qui était allé chez lui, il n'en revenait pas. C'était chez Steve Jobs, le patron fondateur d'Apple. Il avait avec sa femme un F2 dans la banlieue de je sais pas où. Et oui. Il croyait même pas que ça puisse être chez lui. Et il a dit: j'ai tellement de travail que j'ai pas le temps de déménager. C'est votre cas aussi?
Oui, il y a un peu ça. C'est-à-dire quand on fait un livre qui a un énorme succès, on pourrait se dire, tiens, je pars avec mon argent au bout du monde. On se dit, il y a un succès, donc il faut très vite que j'écrive un deuxième livre, ou un troisième, ou un quatrième. Donc en fait, le succès encourage le travail.
D'accord. Donc ça se trouve, vous allez déménager quand ça ne marchera plus. Ce que je vous ne souhaite pas.
Mais exactement.
Vous restez avec nous, Michel Bussy.
Oui, pour la dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Michel Bussy sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est la dernière partie de Culture Média, Louise Bernard est toujours avec nous, Philippe, tout comme notre invité Michel Bussy qui publie son dernier roman, Au soleil redouté, qui sort aux éditions Presse de la Cité.
Michel Bussy, ça marche très bien, vous êtes populaire, vous êtes numéro 1 des ventes déjà en ce moment, et vous réclamez de la littérature populaire, quel sens vous donnez à cet adjectif?
Bah, je dirais que la littérature populaire, c'est la littérature qui va essayer de toucher le plus grand nombre en étant le plus exigeant possible avec ce qu'on écrit. Donc pour moi, la littérature populaire est à la littérature ce que serait la chanson à la musique, quoi.
Je vous interromps tout de suite parce que quand on écoute la doxa, il y a la littérature populaire et la littérature exigeante.
Ouais, mais je crois pas du tout, parce que
expliquez.
Je pense que c'est beaucoup plus, peut-être même exigeant, compliqué de faire de la littérature populaire intelligente. Mmh. Par exemple, le prix Goncourt, que j'adore, hein, mais il explique qu'il a écrit son Goncourt en 28 jours.
Oui.
Moi, je serais incapable d'écrire un roman policier extrêmement sophistiqué en 28 jours. C'est impossible.
Jean-Paul Dubois.
Voilà, parce qu'il faut de la documentation, etc. Alors, Jean-Paul Dubois est un génie dans son genre, mais la littérature populaire ne peut pas s'écrire en 28 jours, parce qu'il faut effectivement de la documentation. Il faut réfléchir à son histoire, il faut que tous les ingrédients soient bien à leur place, de manière à ce qu'on ait l'impression que tout a été parfaitement maîtrisé, y compris le style, de manière à ce que effectivement les gens aient un vrai plaisir de lecture.
Ici, on est en France et vous êtes un petit peu boudé par la critique française qui est quand même particulière, vous êtes un peu tenu à l'écart. C'est pas du tout le cas à l'étranger, je vais citer des critiques. Le livre Un avion sans ailes, voici la critique du New York Times, donc à New York. On savoure l'extraordinaire ingéniosité de l'auteur, c'est vous. Quitte à ne plus respirer, tant le rythme est soutenu. Et la critique du Sunday Times, là c'est à Londres, Bussy casse tous les codes dans ce livre. Et le critique littéraire londonien écrit: je ne suis pas sûr d'avoir lu un roman policier aussi brillant cette année. C'est rageant ou vous vous dites nul n'est prophète en son pays?
Non, c'est-à-dire que je pense que la France a un vrai problème avec la littérature d'imaginaire. Mm-hmm. C'est-à-dire que le plus grand auteur français de très loin, c'est Jules Verne. Mm-hmm. C'est celui qui vend le plus, qui est traduit, je crois que c'est le troisième ou quatrième auteur au monde. Et jamais on cite Jules Verne dans les 4-5 plus grands auteurs français. On va citer effectivement Proust ou d'autres. Donc la France a un problème avec la littérature d'imaginaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait naître des Tolkien, des Rowling, etc. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi. C'est sans doute une grande tradition littéraire française qui a du mal avec la science. On a des auteurs géniaux en policier, on a des auteurs géniaux de science-fiction, on a des auteurs géniaux de jeunesse. Et pourtant, effectivement, ils n'ont pas la même reconnaissance que peuvent avoir des auteurs classiques plus réalistes.
Mais il y a peut-être le nouveau roman qui est passé par là, avec des romans sans personnages, sans histoire, sans même parfois un nom.
Ouais, il y a eu ça. Il y a effectivement toute une tradition du roman réaliste, hein, naturaliste même, au 19e. Et puis, il y a aussi un milieu littéraire. Alors, c'est très bien parce que ça donne une... Comment dire, à l'étranger, effectivement, on envie la France pour ce côté extrêmement prestigieux, voire élitiste de la littérature. Mais du coup, on néglige aussi que les plus gros vendeurs à l'étranger, c'est Bernard Werber, c'est Guillaume Musso, c'est Marc Lévy, et qui sont réellement les vrais ambassadeurs de la littérature à l'étranger.
Vous êtes écrivain, mais également géographe. Vous êtes prof à l'université de Rouen. Vous l'étiez, vous l'êtes toujours. Vous ne donnez plus de cours.
Non, je suis en disponibilité depuis quelques années.
Maître de recherche au CNRS, donc vous n'avez pas besoin d'une satisfaction, intellectuelle. Vous l'avez déjà. Votre spécialité, c'est la géographie de la démocratie. Comment notre lieu de vie détermine notre vote. Je veux dire, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on sort justement de la crise des Gilets jaunes et il y a les municipales qui arrivent. Et vous l'aviez presque vu venir, cette crise des Gilets jaunes, quand on regarde très, très, très finement les lieux d'habitation. l'imitation des gens.
Bah, disons ce qu'on a montré notamment il y a 20 ans à peu près avec quelqu'un qui est Jérôme Fourquet, qui est un politiste un peu connu maintenant aujourd'hui, c'est effectivement que la grande différence, c'était la distance à la ville. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers urbains qui étaient soit très à droite, soit très à gauche, très marqués, de plus en plus marqués. Et plus on s'éloignait de la ville, plus on avait des forces de contestation, en particulier le Front National, mais plus globalement des contestations comme les Gilets jaunes qui sont montées en dehors de tout parti. Donc c'est vrai que ça, on l'a montré avec des mesures très précises des votes. Et on verra au municipal qu'effectivement, dans des petites communes où a priori il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas énormément de problèmes, eh bien les votes, sans doute Front National, en tout cas d'opposition, vont monter très fort.
Je garde en tête vos prophéties, Michel Bussy. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre nouveau roman, il s'appelle Au soleil redouté. Ça se passe pas sur les ronds-points, ça se passe dans un endroit que je croyais jusqu'avant de vous lire, paradisiaque, qui sont les îles Marquis. C'est aux presses de la Cité. On peut également l'entendre sur Lizzie. C'est un livre audio. Vous serez ce soir à Lille. À quel endroit vous
êtes... Je ne sais toujours pas.
Mais si, mais nous, on sait, évidemment. Vous serez au Palais de la Bourse à 18h30.
Au Palais de la Bourse,
et
oui, bien sûr.
Formidable. Nous, demain, je cite de mémoire parce que je ne trouve plus ma feuille. Merci, Céline. Demain, Culture Média est terminée, mais revient demain à 9h avec Marc Lesguy, pardon. C'est pour la millième de son émission E égale M6. C'est sur M6, évidemment. Et puis Lucien Jean-Baptiste, le comédien, pour la série Il a déjà tes yeux. C'était un film. Ça devient une série sur France 2. Salut Louise Bernard, salut Céline Dacosta, salut Michel Bussy. Je vous dis à demain. Bonne journée sur Europe 1.